Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangu animé par Mustapha Mamanstani de la radio Gaskia Zender. Vous recevez à travers les ondes de 47 radios partenaires à travers le Niger. À Zender, vous écoutez cette émission sur la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Chukura sur le 105.5 MHz. Aujourd'hui, le thème de notre émission portera sur l'émergence des médias sociaux au Niger et la loi sur la cybercriminalité. Aujourd'hui, Internet est devenu un support de communication accessible à tous. Avec cet outil, on assiste alors à un développement rapide des moyens de télécommunication et de l'audiovisuel antique. Au Niger, selon l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP, on dénombre environ 5 millions d'internautes, des personnes qui utilisent une multitude de canaux de communication et d'information. Cependant, l'usage que certains en font est souvent immoral, voire criminel. D'où l'application en 2019 au Niger de la loi sur la cybercriminalité. Nous allons alors discuter avec nos invités autour des questions suivantes. Que dit la loi nigérienne sur la cybercriminalité? Quelles sont les infractions qu'on peut qualifier de criminelles sur Internet ou réseaux sociaux? Comment mieux utiliser Internet sans tomber dans certains travers? Pour débattre de cette thématique, nous avons invité M. Lawali Soule Haruna, juge d'instruction du deuxième cabinet d'instruction, M. Maman Ibrahim Tanimundari, juriste, membre Anaj Zender, M. Ibrahim Malam Tchillo, journaliste et responsable de la maison de presse à Zender, Mustapha Elhaj Adam, un blogueur activiste. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, ce soir nous parlons de l'émergence des médias sociaux au Niger et la loi sur la cybercriminalité. Nous commençons par vous, monsieur le juge. Qu'est-ce que la loi sur la cybercriminalité et pourquoi son adoption au Niger?
C'est une loi qui intervient pour réprimer donc les infractions commises par voie de communication électronique. Donc ça peut être l'Internet et tout autre. Et vous savez, comme on a l'habitude de le dire, donc les lois évoluent au gré de l'évolution de la société. Donc avant, cette loi n'existait pas. Il a fallu, comme vous l'avez si bien souligné, l'année 2019 pour que cette loi-là puisse entrer en vigueur. Et la nécessité a fait en sorte que, avec l'évolution des techniques de communication, par exemple Internet, qui jadis nous ne la connaissons pas ici au Niger, maintenant avec l'avènement d'Internet, les gens se permettent donc d'écrire ce que bon leur semble. Donc il faut que vraiment l'État ou le législateur intervienne dans ce sens pour légiférer. Parce qu'avant, même si vous commettez des infractions, par exemple sur Internet, donc il n'y a pas un texte pour réprimer. Or, pour réprimer, il faudrait qu'il y ait une loi. Ça, c'est une nécessité. Donc c'est dans ce sens-là que cette loi, donc numéro 2019-33, du 3 juillet 2019, portant répression de la cybercriminalité, a été adoptée et promulguée donc au Niger, qui actuellement est entrée en vigueur et que nous avons l'habitude d'appliquer. Et comme je vais le souligner aussi, donc on a eu pas mal de cas donc de condamnation dans ce sens. Or, il faut réprimer certains actes ou certaines omissions donc qui sont de nature, par exemple, à porter atteinte à l'honneur, à l'intégrité de la personne, et même des fois qui sont de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État. Il faut vraiment légiférer dans ce sens, et l'État l'a fait donc à travers cette loi.
Monsieur Tanimundari, comment, en tant que juriste, appréciez-vous les publications sur les réseaux sociaux?
Je dirais que ça ne répond pas aux normes. C'est vrai, comme l'a dit le grand frère Soleil, pendant un moment, il y avait un vide juridique. Et comme il vient de le souligner, les juges ou bien les magistrats, de façon générale, ils jugent, n'est-ce pas, en application des textes. Et surtout en matière pénale, on dit que la loi est d'interprétation stricte. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, vraiment, les gens ont commencé à respecter. Parce qu'il faut reconnaître, avant, c'est du n'importe quoi. Et surtout que les gens savent que parfois, leur identité est cachée. Il faut reconnaître au Niger parce que la majorité des gens n'ont pas de pièces d'identité. Ce qui fait que même au niveau des téléphonies mobiles, vous voyez les gens, ils viennent parfois, il a été parrainé par un parrain ou quelqu'un. Parce qu'il sait que pertinemment que c'est pas sa vraie identité qu'il a. Donc il va se permettre, n'est-ce pas, d'enfreindre la loi. Avant l'arrivée des téléphonies mobiles ou bien à ce qu'aujourd'hui ça a été vraiment un peu partout. Pour se connecter, il faut aller sur un cybercafé ou bien dans un service public. Ouais, ouais. Donc, les gens, ils sont suivis là-bas, ils ne peuvent pas se permettre de faire certaines dérives. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, avec les SIM, GSM, n'est-ce pas, vous pouvez aller sur le marché noir, acheter une SIM et vous pouvez voir quelqu'un, un parent pour lui qui a pardon. Je ne suis pas venu avec ma pièce d'identité, il faut me parrainer. Donc la personne sait pertinemment que ce n'est pas sa vraie identité qu'il a. Donc il va se cacher, créer un faux profil, n'est-ce pas, pour enfreindre la loi. Donc de façon générale, franchement, je pense bien que les publications sur les réseaux sociaux de nos jours, ça va.
Monsieur Mustapha, qui peut-on considérer comme blogueur? Est-ce que les publications des blogueurs respectent les principes et valeurs sociales ainsi que la démocratie?
Un blogueur, c'est un internaute, ou bien on peut l'appeler un web activiste. Donc quelqu'un qui est régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc un blogueur, c'est quelqu'un qui a une page Facebook, qui peut être sur Twitter, qui peut être sur WhatsApp. D'une manière générale, les réseaux sociaux, qui publie régulièrement et qui vise un objectif, c'est-à-dire il a pour objectif d'appuyer, amener sa contribution pour rappeler les gens à leur morale, pour dénoncer des dérives de la gouvernance, pour interpeller les parents dans le domaine de l'éducation. Maintenant, en ce qui concerne le respect des valeurs sociales, il est blogueur, quelqu'un qui, dans ses publications, on ne sent pas qu'il y a une agression des valeurs sociales. C'est pour dire qu'un blogueur, c'est aussi quelqu'un qui respecte scrupuleusement en réalité les valeurs sociales. D'une autre part, vous trouverez même dans l'objectif qu'il vise, c'est de même faire valoir, promouvoir ces valeurs sociales. Parce que pour quelqu'un qui dit qu'il a une page Facebook qui a pour objectif de faire promouvoir l'éducation, qui de faire promouvoir la morale, de faire promouvoir un truc culturel, c'est quelqu'un qui doit respecter la démocratie. Démocratie, pour beaucoup d'autres, pendant beaucoup d'années, c'est de dire ou de faire tout ce que tu veux. Tel n'est pas le cas. Démocratie, c'est-à-dire de s'exprimer, d'agir à la limite de ce que la loi t'a autorisé.
Vraiment, Mme Chilo, vous êtes journaliste. La mise en ligne entraîne-t-elle une généralisation de compétences journalistiques?
On peut constater que tout détenteur de smartphone ou utilisateur d'Internet peut se constituer comme étant un journaliste. Parce que dès qu'il y a un événement, vous allez voir que les gens sont en train de y aller avec leur portable pour filmer, pour balancer, ou bien pour écrire, pour dénoncer, ou des choses comme ça. Donc cela veut dire qu'effectivement, il y a une généralisation des compétences journalistiques qui est utilisée peut-être pas en bon escient. De la manière dont c'est pas le fait de prendre des photos ou de filmer des vidéos ou d'écrire des mots pour balancer qu'on devient journaliste. Effectivement, et puis vous allez voir que tout celui qui détient cet outil-là, le téléphone, l'Internet, lui, il n'est pas là pour utiliser pour lui-même. Donc souvent, ils sont là, ils mettent des crédits, ils mettent des mégas pour uniquement chercher quelque chose, soit sur l'Internet ou bien à l'œil nu, comme ça on va filmer, on va diffuser à d'autres personnes qui sont ailleurs. Donc vraiment, je crois que la compétence aussi, elle est un peu menacée de la manière dont les vraies informations sont vérifiées, elles sont données par des journalistes qui ont eu des formations, des journalistes qui travaillent dans des médias, bref, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on devient journaliste. Les gens qui lisent ou qui voient ou qui entendent souvent certaines publications doivent se demander est-ce que ça émane d'un journaliste, est-ce que ça émane d'un média ou est-ce que ça émane de quelqu'un qui est vraiment qualifié pour donner cette information-là.
Monsieur le juge, monsieur Haruna, comment et sur qui la loi sur la cybercriminalité est-elle appliquée?
Donc je dirais qu'elle est appliquée tout simplement. Tout respectant les règles de procédure pénale en la matière. Donc cette procédure qui commence par l'enquête préliminaire, donc qui peut aller directement en fonction de la nature des faits et aussi en fonction de la décision prise par le parquet, qui peut mettre donc l'affaire directement donc en flagrant délit, en citation directe, tout comme il peut mettre le dossier en information, c'est-à-dire saisir un juge d'instruction qui va instruire l'affaire. Donc le comment, tout simplement, c'est respecter les règles de procédure pénale. Et ces règles de procédure pénale sont très strictes. Nous sommes tous tenus de respecter ces règles. Maintenant, le circuit, donc je pense que la loi telle qu'elle est, à partir du moment où elle a été donc promulguée, donc elle s'applique à tout le monde. Peut-être donc on pourra faire exception donc de la minorité, comme nous sommes en matière pénale. On dit que les mineurs de moins de 13 ans est pénalement irresponsable. Or, on a vu maintenant, avec les enfants qui ont des parents aisés, c'est facile d'avoir un téléphone vraiment iPhone et autres entre les mains des petits enfants et qui savent les manipuler aussi, qui savent écrire. Donc, et qui dit écrire peut-être peut envoyer des choses contraires à la loi ou des choses qui peuvent constituer une infraction à la loi pénale. Donc, on a vu beaucoup de cas. Par exemple, on a vu des cas des enfants mineurs donc, qui ont eu à avoir, comment on appelle ça, à souffrir donc, de photos de nudité, donc de femmes qui peuvent envoyer entre eux. Maintenant, avec le temps, ça peut se retrouver par exemple sur Facebook. Or, ça, c'est une infraction. Maintenant, qu'est-ce faire par exemple par rapport au cas d'espèce? Si c'est un mineur de moins de 13 ans, là, on ne pourra rien faire en tout cas sur le plan pénal parce que moins de 13 ans, le mineur est pénalement irresponsable. Mais il y a l'aspect civil qui est là. Donc, la victime, si elle veut, donc, elle peut donc, aller devant le juge civil pour demander des dommages et intérêts. Mais à partir du moment où donc, l'auteur donc, a été la majorité, donc, cette loi pénale, qui est la loi sur la cybercriminalité, comme elle prévoit les sanctions pénales, donc c'est une loi pénale, donc elle s'applique à tout majeur donc, qui aurait commis une infraction qui serait prévue également par la loi. Parce que je tiens à vous le préciser, l'article 4 du Code pénal qui est clair, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis des peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. Donc, toutes ces infractions sont prévues par la loi. Tout ce qui n'est pas prévu par cette loi ne peut pas être appliqué. Donc, si une personne, par exemple, a commis tel ou tel acte, on vérifie d'abord. Est-ce que cet acte-là est prévu et puni par cette loi? Si c'est vrai, donc, on applique. Si ce n'est pas le cas, donc, il n'y a pas autre chose à faire. Donc, on ne peut que classer l'affaire comme ce n'est pas une infraction.
Mais le parent qui a payé le portable, par exemple, à l'enfant, peut-il être tenu comme responsable?
À l'enfant mineur, vous voulez dire?
À l'enfant mineur.
Pour être tenu pour responsable, mais sur le plan civil seulement. Pour ce qui est de la réparation, donc c'est le père qui va réparer le préjudice. Donc, c'est le juge qui va donc l'obliger à payer des dommages et intérêts pour la faute commise par son enfant. La responsabilité donc de parent du fait de leur enfant mineur.
Monsieur Moustapha, blogueur, comment faire pour faire des publications en ligne tout en évitant les dérives?
Dans les publications, il faut le faire en visant un objectif. Il faut qu'on soit ressourcé, il faut qu'on soit peut-être même témoin oculaire. Il faut qu'on soit même responsable, parce que d'une infraction vous-même, ou bien le responsable plutôt d'une violation, peut-être de votre droit ou d'autres choses. Donc, c'est en ce sens-là, il faut que la publication soit véridique, il faut qu'elle puisse trouver son sens. Maintenant, en faisant ça aussi, il ne faut pas aller outrancier quelqu'un, il ne faut pas exagérer en l'insultant. Donc, il faut respecter en tout cas la personne dont vous dénoncez, ou bien l'entreprise dont vous dénoncez, tout en respectant aussi vos auditeurs, parce que dans vos publications, il ne faut pas mentir. Parce que quand vous mentez, c'est-à-dire, c'est comme si vous ne respectez personne. Il faut aussi qu'on soit animé du bon sens. C'est ça, le bon sens, en tout cas, s'il y est, je pense qu'on ne peut pas aller dans les dérives.
Ibrahim Tchilo, comment mieux contribuer à résoudre les problèmes d'ordre social en matière de liberté d'expression et d'opinion sur les médias sociaux?
Effectivement, je commencerai par le mot liberté d'expression, parce que la Constitution du Niger a permis aux Nigériens de s'exprimer. Donc, il est important aussi de le souligner. Mais quand même, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes d'ordre social qui sont là. Donc, qui sont, comme M. le juge vient de le dire aussi, ils ont eu des cas. Donc, cela veut dire qu'il y a des gens qui se sont vus menacés, ils ont porté plainte contre ça. Donc, cela veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont là. Mais les gens font souvent l'amalgame entre le fait de poser un acte qui est un problème social et puis l'acte de la liberté d'expression. Les gens pensaient que quand vous détenez un téléphone ou bien quand vous avez l'Internet, vous êtes libre, vous n'êtes pas suivi, vous êtes indépendant de dire ce que vous voulez ou bien vous posez l'acte que vous voulez, et ce qui vous enchante. Donc les gens oublient que même la liberté de l'expression, là c'est limite. Parce que tes droits, là, ça finit là où celui de ton prochain commence. Donc, il faut que les gens se ressaisissent et qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à l'utilisation de l'Internet qui sont considérés comme des problèmes sociaux. De la manière dont ce qui choque maintenant, c'est dès qu'il y a un petit mouvement ou un petit accident, vous allez voir que tout le monde veut filmer, veut envoyer quelque part. Même si vous pensez que vous êtes libre de votre expression, mais quand même, vous êtes en train d'entraver les droits de quelqu'un d'autre encore.
Il y a des choses qui
choquent. Il y a des choses qu'on ne doit pas vraiment divulguer ou bien publier sur les médias, sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas donner de l'information pour seulement divertir. Il faut donner de l'information pour aider, pour éclairer ou bien pour amener de plus par rapport à un acte. Mais il ne faut pas donner de l'information seulement pour plaire à quelqu'un ou bien pour un peu dénoncer ce qui... peut-être qui n'est même pas à dénoncer. Puis les gens se camouflent avec la liberté de l'expression pour poser des actes souvent qui ne sont pas aussi bons.
Je vais poser cette question aux deux spécialistes de la loi. Je vais commencer par vous, Tani Moun. Quelles sont les sanctions prévues dans le cadre de cette infraction sur les médias sociaux?
La loi sur la cybercriminalité a prévu, d'ailleurs dans un premier temps, à essayer de définir d'abord qu'est-ce qu'on entend par cybercriminalité, preuves électroniques, systèmes d'information, communication électronique, etc., etc. Et vous allez voir au niveau, par exemple, de l'article 3 de cette loi, la loi 2019-30, on dit accès illégal est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Quiconque accède intentionnellement et sans droit à tout ou partie d'un système informatique. Vous allez voir la plupart des sanctions au niveau de cette loi sur la cybercriminalité, pas moins d'un an. 1 à 3 ans, 3 ans à 5 ans, jusqu'à moins de 10 ans. Donc c'est pour vous dire que la loi elle est vraiment sévère. Et au-delà de l'emprisonnement, il y a des amendes de 500 000 à 1 million. Parfois vous allez voir jusqu'à 10 millions.
Monsieur Harouna.
Donc tout dépend de la nature de l'infraction commise, parce que quand vous allez prêter la loi et lire, vous allez voir qu'il y a diverses infractions. Donc le camarade juriste a cité une parmi tant d'autres, l'accès illégal, donc qui est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million. Quand vous allez parcourir la loi, vous allez voir que c'est des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. La peine d'emprisonnement qui consiste à ce que la personne purge une peine d'emprisonnement donc au niveau d'une maison d'arrêt, communément appelée prison. La peine d'amende qui va consister à ce que la personne paye une certaine somme donc au profit du trésor public, et ça qu'on appelle une sanction pécuniaire. Or, de l'autre côté, c'est une sanction, si on peut l'appeler entre guillemets, une sanction physique, parce que c'est la personne qui va souffrir physiquement, mais aussi psychologiquement. Or, de l'autre côté, donc, c'est une sanction financière. Et certains, vous allez voir que même les sanctions financières, c'est-à-dire les amendes, sont assez dissuasives. Mais il y a aussi la confiscation, il ne faut pas l'oublier. Donc, on peut confisquer l'objet par rapport à certaines infractions, si la loi, en tout cas, a prévu. Parce que même toute sanction doit être prévue par la loi. Il se pourrait que, par exemple, l'accès illégal, vous allez voir, donc, on n'a pas parlé de confiscation par rapport à cet aspect. Mais il peut y avoir des infractions pour lesquelles la loi a prévu.
L'accès illégal, c'est le soutirage, par exemple, d'une information illégalement.
Oui, donc on dit accès à un système informatique. Par exemple, moi, je rentre dans votre ordinateur, prendre des données qui sont personnelles et les diffuser, de l'intention de vous nuire, évidemment. Ou bien de porter atteinte à votre honneur. Ou bien, par exemple, vous faire du chantage pour réclamer une rançon, etc., etc. Oui, parce que le problème, c'est que ce soit un système qui soit codé. Donc, je passe par le piratage pour décoder, prendre l'information et l'utiliser dans l'intention de nuire. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas. Même le simple téléphone, la personne peut porter plainte. Donc, on peut aller sur le terrain de diffusion de données donc, personnelles, mais de nature à porter atteinte à l'honneur ou à l'intégrité de la personne. Donc, il peut avoir donc, une peine d'emprisonnement, une peine d'amende, une confiscation, même l'interdiction de séjour, c'est possible. Si, par exemple, c'est un journaliste qui a commis l'infraction, on peut lui interdire donc, d'avoir accès. L'accès donc à l'ère aux médias, donc pendant un certain temps, etc. etc.
Voilà. Je voudrais un peu ajouter, en matière pénale, il y a trois catégories d'infractions. Il y a ce qu'on appelle les contraventions, les délits et les crimes. Et vous n'êtes pas seul le savoir, en matière pénale, pour qu'une infraction soit constituée, il faut la réunion de trois ces éléments. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément psychologique. C'est pourquoi vous allez voir ici, on a dit intentionnellement. Il faut que ça soit intentionnellement. Si ce n'est pas intentionnellement, donc il manque un élément. On ne peut pas vous suivre. Donc il faudrait que d'abord, on a dit légal. Est-ce que la loi a prévu? S'il y a un vide juridique, donc on ne peut pas vous suivre. Mais du moment que la loi a prévu, donc c'est légal. L'élément matériel, matériellement, avec quoi vous avez essayé, n'est-ce pas, d'enfreindre la loi. Et le troisième élément, donc, c'est ce qu'on appelle l'élément intentionnel ou bien psychologique. Est-ce que c'est par erreur ou bien vous êtes en connaissance de cause de ce que vous êtes en train de commettre, quoi. Donc c'est en ce moment-là qu'on peut vous poursuivre. Et surtout en matière pénale ou bien, et plus précisément en matière criminelle, vous allez voir, on dit en matière criminelle, même la tentative, elle est punissable comme si l'auteur a reçu l'infraction. Alors que vous allez voir au niveau de la contravention, on ne parle même pas de la tentative, mais au niveau de l'actuel, on parle de la tentative si elle a été prévue par le texte.
D'accord, merci M. Tani Moun. M. Ibrahim, comment remédier aux problèmes d'éthique et d'éontologie qu'on sent aujourd'hui dans les médias sociaux?
Là, vraiment, c'est une question qu'on devrait se poser. Est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux a besoin, ou bien elle est encadrée par l'éthique et la déontologie? C'est ça aussi, c'est un autre problème. Mais néanmoins, je crois que c'est le bon sens. Dès qu'on parle de l'éthique et de la déontologie, c'est le bon sens qui doit prévaloir. Parce qu'on utilise un canal qui est important, qui te permet de t'exprimer, qui te permet d'avoir des informations, qui te permet de faire beaucoup de choses. Donc, je crois qu'on doit songer à l'utiliser avec beaucoup, comme les gens disaient là, avec beaucoup de modération. Parce que c'est vrai qu'il y a certains trucs qu'on doit vraiment voir que pour quel intérêt on l'a diffusé, ou bien pour quel intérêt on l'a fait. Donc là, ça doit interpeller l'auteur. Est-ce qu'il a pensé? Est-ce qu'il a d'abord songé à l'éthique et la déontologie par rapport à l'acte qui a été posé? Donc je crois que c'est un problème de bon sens à ce niveau-là.
Mustapha, à quel besoin précis la communication en ligne peut-elle répondre?
Très bien. Et avant de répondre au fait à cette question, j'aimerais dire deux choses par rapport aux deux questions précédentes. La première des choses, c'est-à-dire, c'est par rapport à la loi sur la cybercriminalité. C'est pas que la loi en tant que telle elle est mauvaise, mais et surtout, on sait de l'esprit quand on parle de loi, c'est-à-dire c'est pour corriger certains tares, c'est pour donner occasion à ce que certains mauvais déontologies, mais quand même, le blogueur, il s'est fait lui-même l'obligation de respecter les valeurs morales. C'est la morale, c'est la société, c'est les valeurs sociales en quelque sorte. Donc c'est pour dire qu'ici, un blogueur il estime qu'il y a l'obligation lui-même de respecter beaucoup de choses, de ne pas se permettre de faire beaucoup de choses.
Sauf que, comme l'a dit tout à l'heure Tanimoun, il y a des gens qui ouvrent des blogs avec des fausses identités.
Oui, mais ça là, très bien. Mais maintenant, si, par exemple, le système judiciaire arrive à mettre un système qui peut, comment on appelle ça, mettre main sur ces personnes, moi je pense que certainement, la loi avait prévu des sanctions pour des cas d'espèce. Donc, il y a lieu maintenant que la loi, la justice puisse s'auto-saisir. C'est surtout si on veut trouver comment on appelle ça, et que la loi là puisse faire assez d'impact, même si par ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit, mon ami l'avait évoqué, que de nos jours, on sent qu'il y a une organisation, on ne trouve pas assez de dérives. Oui, je suis d'accord. Il y a des dérives parce qu'il y a la loi, parce que les gens ont peur, mais aussi, il faut noter, dans mon pays, le Niger, vraiment, plus on avance, plus on est en train de trouver une civilisation, et que on est nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, on se rend compte que non, pendant 2 ans, on a dit tout ce qu'on pense, mais c'est pas bien ça là, donc plus tard, on s'est fait une loupe morale, et on corrige, et on cesse de faire des choses. Voilà. Donc la loi là, elle peut avoir beaucoup d'impact si, par exemple, au niveau du système judiciaire, qu'on puisse mettre un. Qu'on puisse s'auto-saisir, que la justice puisse s'auto-saisir par rapport à certaines personnes, surtout les cas des gens qui se cachent derrière les choses-là. Par rapport à la formation, l'État peut organiser, parce que aujourd'hui la question d'utilisation des réseaux sociaux, ça a un grand impact dans notre vie, c'est en train de prendre une grande ampleur. Donc du coup, l'État peut organiser des séances de formation pour tous ceux qui désirent faire cette activité, que ce soit blogueur ou simple internet, pour tous les citoyens, mais aussi les associations. Et l'UNSC, des associations comme ABCA, des associations comme des ONG comme EHPAD, et il y en a encore plein d'autres qui organisent des séances de formation, des ateliers pour s'adresser aux blogueurs, aux internautes, pour leur dire que, il faut faire attention, surtout, il y a la loi là. Pour écrire, il faut respecter telle valeur, Donc, du coup, je pense que l'État peut prendre les choses en main. Là, en tout cas, beaucoup des associations peuvent s'organiser pour former les gens. Maintenant, pour vous répondre à la question précise de comment, à quel besoin, les besoins auxquels il faut répondre, c'est-à-dire, c'est le souci de dire ce qu'on pense. Parce que l'internaute, tout à l'heure, je l'ai dit, sa motivation peut être diverse. Il a des problèmes à accès à la presse ordinaire, la radio ou la télévision. Il y en a beaucoup des endroits où aujourd'hui, même si tu veux te prononcer, mais tu trouveras où la radio, où tu trouveras tout, le siège de la radio n'étant pas chez toi, le siège de la télé n'étant pas chez toi. Donc, avec les réseaux sociaux, donc tu peux dire ce que tu penses, tu peux interpeller, tu peux éduquer.
Monsieur le juge, les prédécesseurs ont touché du doigt un sérieux problème. Certains utilisent des fausses identités, d'autres même c'est leur vraie identité. Mais comment concrètement peut-on traquer quelqu'un et le juger, quelqu'un qui est auteur d'une infraction sur Internet?
Dans un premier temps, je parlerai même d'abord des victimes de ces arts d'actes. Ces derniers temps, nous avons constaté que les compagnies de téléphonie mobile acceptent l'identification de plusieurs puces avec une seule carte d'identité. Et des fois, quand la personne amène sa carte d'identité pour l'identification, l'agent récupère la carte, fait une photocopie de la carte et remet l'original à l'intéressé. Il veut dire que vas-y, donc ça sera réglé. Je te ferai ça. Maintenant, dès que l'intéressé donc, est parti, lui, il profite pour utiliser la photo de cette carte d'identité pour identifier d'autres puces qu'elle va vendre. Donc, des puces déjà identifiées, donc avec l'identité d'une tierce personne qui n'est même pas au courant qu'on a identifié d'autres puces avec sa carte d'identité. Et on a eu, dans le cadre de nos enquêtes, des gens qu'on interpelle. On dit, bon, un tel, telle infraction a été commise et voilà qu'on a saisi la compagnie de téléphonie mobile à travers nos investigations. C'est la photo de ta carte qui est sortie et c'est toi qui as appelé avec tel numéro. Il dit que non, non, c'est pas moi. Mais pourtant, voilà, les relevés, c'est ta photo de ta carte, non, là, c'est pas lui. Donc vraiment, on rencontre ces genres de difficultés et nous interpellons donc ces compagnies de téléphonie mobile donc à trouver une solution par rapport à cet aspect. Parce qu'il y en a des victimes qui sont actuellement en détention, des jeunes qui ne savent rien, parce que tout simplement, leur carte a été utilisée pour identifier des puces qui ont été vendues à des personnes qui ont commis des infractions, en laissant peut-être même la carte sur le lieu de l'infraction, ou bien si c'est une infraction, par exemple, l'escroquerie commise par voie d'Internet, ou bien par voie de téléphone, etc. Quand on fait les relevés, donc on tombe sur la personne. Or, elle ne sait rien. Rien que la semaine passée, j'ai appelé un monsieur, il dit que non, non, lui, le numéro, là, il va me les jeter, quoi, il va casser la puce, parce qu'on les dérange. À chaque fois, l'appel dit qu'un tel a fait telle chose, alors que ce n'est pas lui. Ça aussi, j'invite les gens à prendre soin. Quand vous partez faire l'identification, ne remettez jamais votre carte d'identité. Donc, dès que la personne finit le travail, récupérez votre carte et partez avec. Il ne faut jamais laisser une copie de la carte de ces agences-là qui font l'identification. Maintenant, comment traquer? Donc, pour traquer, vraiment, là, on rentre dans un secret qu'on ne peut pas dévoiler. Mais comme nous avons nos moyens à nous, donc pour traquer les auteurs de ces genres d'infractions, et comme vous le savez, la loi qui a été également adoptée et qui est actuellement en vigueur, c'est la loi 2020-19 du 3 juin 2020 portant interception de certaines communications émises par voie électronique au Niger. Et cette loi est intervenue également, comme nous sommes dans un contexte du terrorisme, du trafic illicite des migrants, bref, et d'autres infractions même transnationales. Dans ce cas, vraiment, il faut intervenir. Il faut intervenir pour rassembler des preuves, parce que des fois, on a des difficultés de preuves. Mais pour ce faire, donc, cette loi a été adoptée, en ce sens que la personne, mais avec l'autorisation du juge, évidemment, peut être mise sur écoute sans pour autant le savoir, tout comme on peut intercepter ces appels, les messages, dans le but de rassembler des preuves. Surtout pour ces infractions très graves comme le terrorisme ou le trafic illicite des migrants. Il y a aussi donc un décret, c'est le décret 2019 aussi, qui porte création, organisation, mission et fonctionnement des centres d'interception judiciaire. Il y a un centre qui est prévu à cet effet, donc avec, comment on appelle ça, une équipe qui travaille dans ce sens. Mais toujours est-il dit que tout s'est fait sous le contrôle de la loi. Parce que même pour intercepter le fonds d'autorisation du juge, il faut un écrit signé par le juge, tout. Maintenant, pour traquer, c'est facile. Vraiment, je profite de l'occasion pour le dire. Ne pensez pas que quand vous avez une fausse identité sur Internet, que ce soit Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc., etc., quand vous mettez un faux profil, on ne va pas vous traquer. Non, 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 non. Dès que la personne aurait commis une infraction, on peut bel et bien, nous avons le moyen de la chercher, de la traquer et aussi de la punir. Maintenant, le jugement, tout dépendra de ce que le juge du jugement aura décidé. Mais toujours est-il dit que c'est une procédure qui est là. Donc, on voit même de la phase de jugement. On donne l'occasion à la personne donc, de se défendre. C'est une audience qui est publique. Allez-y. Allez.
Est-ce que la peine est la même, par exemple, pour quelqu'un qui a une vraie identité sur Internet et quelqu'un qui a utilisé une fausse identité?
Ça ne peut pas être la même parce que dans le premier cas, c'est son identité. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on ne peut que sanctionner l'infraction qu'il aura commise. Mais dans le deuxième cas, il peut avoir double infraction, l'usurpation des titres. Par exemple, il peut prendre ma photo, mettre sur son profil, commettre une infraction. Donc là, il y a des infractions. Non seulement il a usurpé donc, mon titre, mais même récemment, on a eu des cas. Des gens qui appellent pour dire que c'est le juge Intel. Donc, envoie-moi un stock de 20 000 ou 30 000. Alors que nous, on n'est pas au courant. Vous voyez? Donc là, il a usurpé son identité. Il a usurpé l'identité du juge donc pour escroquer des justiciables et se faire remettre de l'argent. Et il y a eu des victimes. Parce que moi, il y avait un monsieur qui m'avait appelé pour une petite histoire. Donc, on s'est rencontré une fois dans le cadre d'un dossier. Il est retourné à Maradi. Et heureusement pour moi, le lendemain, je l'avais appelé. Un tel par rapport à telle affaire, quels sont les infos? Il m'a dit que non. Pour le moment, je n'ai pas d'infos. Mais hier, quand même, il y a un numéro qui m'avait appelé pour me dire que c'est vous et d'envoyer un stock de 20 000. C'est moi, si j'ai besoin de 20 000 francs là, j'allais prendre ça dans mon bureau. Ce n'est pas intéressant par terre que je vais t'appeler pour te dire de m'envoyer de l'argent. Je lui ai demandé de m'envoyer le numéro, il m'a envoyé le numéro, trois numéros RTL. Mais après les recherches, on a su que c'est une autre personne donc qui a utilisé mon nom et mon titre donc pour escroquer un justiciable. Vous voyez, là, la peine ne sera pas la même pour celui qui utilise sa vraie identité pour commettre des infractions. Pour attraper, moi, c'est facile. Si c'est avec la vraie identité de la personne, mais si c'est avec une fausse identité, des fois c'est un peu compliqué, mais comme il y a les moyens qui sont là. Tous les moyens actuellement au Niger sont disponibles pour traquer, donc juger les auteurs des infractions sur Internet.
Monsieur Tanim, aujourd'hui on voit que des gens multiplient les envois. Au stade actuel de la technologie au Niger, ça risque d'être difficile de traquer, par exemple, le vrai auteur d'un message.
Si, si. Il y a bel et bien des moyens, n'est-ce pas, pour traquer ces auteurs de ces infractions sur la cybercriminalité. Comme le juge l'a dit, il y a les secrets professionnels, il y a certaines informations qu'on ne peut pas le divulguer, mais j'ai échangé avec pratiquement les différentes unités de recherche, que ce soit la police ou la gendarmerie, et même lui, le juge d'instruction, qui est aussi une continuité des poursuites. Le véritable moyen, il y a la loi, cette loi-là, numéro 2020-19, n'est-ce pas, du 3 juin 2020, portant interception, n'est-ce pas, des communications émises par voie électronique au Niger. Elle permet de traquer. Et avec cette autorisation, on permet, n'est-ce pas, de trouver le véritable auteur. Vous allez voir au niveau de l'article 2 de cette loi, on dit qu'ils peuvent être autorisés à titre exceptionnel par décision du président de la République ou de la personne par lui déléguée pour autoriser, n'est-ce pas, le premier ministre, dit le ministre de la Défense, ministre chargé de l'Intérieur, ministre de la Justice ou ministre chargé des Finances, des exceptions des communications émises par voie électronique ayant pour objet la recherche des renseignements concernant 1. L'atteinte à la sûreté de l'État et à l'unité nationale. 2. L'atteinte à la défense nationale, à l'intégrité territoriale. 3. La prévention et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. 4. La prévention de toute forme d'ingérence étrangère et d'intelligence avec l'ennemi. 5. Et dernier, n'est-ce pas, la sauvegarde des intérêts économiques et scientifiques. Donc, parmi tous ces cas que je viens de citer, si un de ces cas se présente, donc il y a une commission qui est là, donc qui est rattachée au niveau de la présidence de la République, n'est-ce pas, la Commission nationale de contrôle d'interception de sécurité. C'est une autorité administrative indépendante, donc elle a le plein pouvoir dans ces choses-là, bien limité, évidemment. Ce n'est pas autorisé n'importe quelle situation, c'est bel et bien cadré. Et Dieu merci, vraiment la police et la gendarmerie, ils sont en train de faire des moyens efficaces. Aussi, il y a une filière qui a été ouverte, je crois, au niveau de l'université de Dosso, l'UIT, n'est-ce pas, sur la cybercriminalité, dans la première promotion et à licence cette année. Donc je pense bien que c'est toujours dans le cadre, n'est-ce pas, pour pouvoir traquer l'État du Niger et en train de mettre vraiment des moyens efficaces pour pouvoir pallier à ce genre de problèmes. Peut-être on peut dire que donc on ne peut que redoubler d'efforts parce que vous n'êtes pas sans le savoir, c'est un véritable problème qui dérange presque le monde entier. Même au niveau de la CEDEAO, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la CIL, une commission informatique des libertés qui a été mise en place depuis fort longtemps. Et étant donné que le Niger fait partie des pays membres de la CEDEAO, je pense même que c'est une loi qui est aussi en vigueur au Niger.
Mustapha El Hadj Adam, les médias sociaux, est-ce un média à part entière?
Je pense que ça reste toujours un débat. Tout à l'heure, et le camarade Ibrahim Tchoulo l'avait évoqué, parce que dans ce qu'il dit, tu as l'impression qu'en tant que journaliste ordinaire actif, c'est-à-dire il cherche à se distinguer des internautes des blogueurs. Mais maintenant, le blogueur, lui, il a tendance à se dire que le journaliste, mais lui-même, il cherche aussi à se distinguer
internaute
simple. Parce qu'il estime que lui-même, il a une certaine valeur dont un internaute ordinaire qui n'a pas ses valeurs. Dans les faits, on a l'impression qu'ils sont en train de faire presque la même activité. Mais maintenant, du point de vue valeur, conception de l'esprit des uns et des autres, je ne sais pas comment. Mais ce qui est sûr, eux-mêmes, ils sont en train d'exercer plus ou moins la même activité que le journaliste, parce qu'on donne de l'information, on fait de la publicité, on fait des communiqués, on fait des... Les gens font des débats, ça contribue, ça éduque, etc., etc. Donc, ce qui est sûr, soit médias ou pas médias, ce qui est sûr, eux aussi, ils en ont leur place et ils contribuent beaucoup, même si par ailleurs de l'autre côté il y a beaucoup de dérives.
D'accord. Monsieur Ibrahim, quelle adaptation pour une diffusion électronique? Et aussi une deuxième question, est-ce que la communication sur Internet, qui est de plus en plus utilisée pour les publicités, ne peut pas constituer une menace aujourd'hui pour la presse traditionnelle?
Quelle adaptation? Je crois que étant journaliste, c'est une adaptation journalistique. Parce qu'on sait qu'un journaliste a une responsabilité de part et d'autre. Donc, il doit vraiment se respecter, se faire respecter et respecter beaucoup de choses. Mais on peut dire que, comme l'a dit un adage à Oussala, Rigazamani Asata, on est obligé aujourd'hui, les médias, tous les médias sont obligés de s'adapter par rapport à la diffusion, à la nouvelle donne. Parce que vraiment, c'est une nouvelle donne. Et puis, vous allez voir que même certaines informations remontent des réseaux sociaux. Ça. Comme ça, quitte aux médias d'aller investiguer, d'aller traiter et puis diffuser l'information. Mais quand même, c'est un outil vraiment qui est tellement important. Mais quand même, il est utilisé souvent, abusivement, pour se permettre aussi de dire qu'ils sont importants pour nous et pour la société elle-même. De la manière dont un blogueur ou un internaute il peut vraiment remonter une information très capitale. Et puis par rapport à votre deuxième question, je ne veux pas dire que les réseaux sociaux ou les voies électroniques peuvent un peu menacer par rapport à la publicité ou à certains trucs quoi. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par les internautes ou bien sur les réseaux sociaux par rapport à des publicités. Mais souvent, ce n'est pas professionnel. Quelqu'un qui a besoin de trucs vraiment importants et professionnels, c'est les médias classiques là qui les font. Et puis aussi, les nombres, 5 millions de personnes utilisent l'Internet au Niger, alors qu'on est 20 et quelques millions. Donc, il faut voir que la menace, même si elle est là, pour le moment, elle n'est pas importante. Et puis, je pense que ça ne peut même pas menacer. Parce qu'il y a des zones où tu ne peux même pas avoir accès à un smartphone, à plus forte raison, Internet, dans ces pays-là. Donc, ces gens-là, vous allez les voir chaque jour, ils sont collés à leur poste radio. Donc, ils écoutent la publicité, ils écoutent de l'information, ils écoutent beaucoup des émissions. Donc, cela dit qu'ils sont liés, pour le moment, ou bien jusqu'à présent, à ces médias-là, classiques.
Monsieur le juge, le Niger a adopté une nouvelle loi sur l'interception des communications électroniques en 2020. Est-ce que cette loi n'est pas une menace à la liberté d'expression et le droit à la vie privée?
Donc, je dirais que cette loi n'a rien de liberticide, comme on l'a dit. Elle ne porte nullement atteinte à la liberté d'expression. Comme l'a souligné M. Ibrahim, donc il y a un adage qui dit « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Je ne peux pas me permettre de tout raconter, de tout dire, de faire de fausses informations sur la personne et même sur l'État. Parce que nous tenons beaucoup plus à cette cohésion nationale. Donc, et si on doit laisser les gens donc écrire, donc envoyer de n'importe quoi, cela risquerait de porter atteinte à cette cohésion nationale. Et on a vu récemment les cas des audios qui ont circulé soit suite à des nominations, ou même les auteurs de ces audios ont été interpellés par la PJ puis déposés à la maison d'arrêt de Niamey. Mais il paraît que par la suite, d'après ce que j'ai lu sur Facebook, ils ont bénéficié de liberté provisoire. Ça, c'est une décision du juge. Mais je dirais que vraiment, il faut recadrer. C'est important de recadrer. Il y a toujours une limite à toute chose. Si on a la vraie information, l'information concrète, donc qui serait utile également à la société, on peut la divulguer. Parce que vraiment, la cohésion nationale est très, très importante. La paix et la tranquillité publique, c'est très important. Il ne faut pas diffuser des choses qui peuvent envenimer la situation.
Monsieur Mustapha, quels sont les défis en matière de la publication en ligne?
D'abord, quand tu décides d'être blogueur ou d'être internaute, sache que dans ce que tu fais, combien que tu sois animé de bonne volonté, il y a des gens qui vont vouloir arrêter s'en prendre à toi. Ça, vraiment, c'est un véritable défi parce que généralement, ce genre de commentaires attaquent en réalité des sensibilités personnelles, individuelles. Et deuxième de chose, c'est-à-dire, pour ceux qui s'attachent à un prix particulier, ils se confrontent à de la mauvaise qualité de la connexion. Parce que tout ce travail n'est possible quand quelqu'un de téléphonie mobile puisse faire et respecter sécuritairement leur contrat avec un client. Malheureusement, au Niger, surtout vous prenez le contexte des Indes, de tout temps, qu'ils soient toutes les compagnies, je ne cible pas une ou l'autre, mais j'ai dit dans beaucoup de cas, il y a non-fiabilité de la connexion. Mais aussi, même quand il y en a, cette connexion, elle coûte cher, extrêmement cher, parce que troisième défi, il y en a beaucoup qui se font passer pour des internautes, alors que j'ai dit, comme je l'ai dit, un blogueur, en principe, il doit respecter certaines valeurs, même s'il n'est pas journaliste, mais ne serait-ce que, même s'il n'y a pas un cadre professionnel qui lui dit que voilà, ça là, c'est un travail, mais quand même, j'ai dit, et il se fait une morale personnelle à partir de lui et qui décide de ne pas transgresser certaines lois juridiques, mais aussi les lois aussi aujourd'hui modernes. Tel qu'il prend conscience qu'il y a la loi sur la cybercriminalité et c'est possible qu'il y ait aussi d'autres lois qui impliquent les cadres de blogueurs.
Ibrahim Tchilo, comment les médias en ligne, selon vous, peuvent-ils participer à la consolidation de la paix et à l'enracinement de la démocratie?
La cohésion sociale est tellement importante au Niger que vraiment on ne doit pas jouer là-dessus. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux qui sont des moindres considérations ou bien qui ne sont pas bons. Mais quand même, je crois qu'à travers beaucoup de choses, des sketchs, des sensibilisations, les cousinages, il y a beaucoup de choses aussi qui se font sur les réseaux sociaux à travers cela. Et il y a une consolidation de cette cohésion sociale-là. Donc, je crois qu'on doit contribuer dans ce sens-là pour que cette cohésion-là il reste au Niger.
Monsieur Tanimoun, comment vulgariser, selon vous, la loi sur la cybercriminalité pour que tous soient informés?
Étant donné que nous sommes dans un pays démocratique qui dit la démocratie, donc il y a la séparation de pouvoir. Du moment que la loi aussi, par définition, elle peut avoir deux provenances, soit un projet de loi ou une proposition de loi. Donc le législateur nigérien a fait de son mieux. Donc ils ont adopté la loi. Elle a été promulguée par le législatif et elle a été publiée au journal officiel. Donc elle est en vigueur. Le pouvoir judiciaire est en train d'appliquer ça. Je pense bien qu'elle a été largement diffusée. C'est déjà l'essentiel. Mais aussi, on peut profiter aujourd'hui avec l'évolution de la technologie. Sinon, avant, si vous voulez avoir cette loi, il faut vous abonner ou bien aller au journal officiel pour avoir ça. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec l'évolution de la technologie, dès que la loi elle a été votée, promulguée, donc facilement on peut avoir ça sur notre téléphone smartphone, donc on peut vulgariser ça. Quoi. C'est vraiment un moyen efficace. Vraiment, j'attire beaucoup l'attention des gens. Vous allez voir de nos jours, beaucoup de citoyens pensent qu'il faut être juriste ou bien quelqu'un du domaine judiciaire pour avoir certains documents. Alors que tout citoyen doit avoir ces documents-là. Comme il est des principes en droit, nous ne laissons pas ignorer la loi.
Monsieur le juge, je finis par vous. Comment mieux utiliser Internet sans tomber dans certains travers?
Quand on reçoit une information, il faut la filtrer. Donc, distinguer le vrai du faux avant de publier. Ça, c'est important. Et comme on a l'habitude de le dire, toute chose a des avantages et des inconvénients. Donc, mais il faut mieux mettre l'accent sur les avantages d'Internet que sur les inconvénients. Il faut savoir faire un bon usage, un usage qui soit bénéfique. Donc, si on ne veut pas vraiment tomber dans certains travers qui peuvent conduire donc, la personne donc, à la prison.
Merci et c'est la fin de ce forum. On résume que l'adoption de la loi est une nécessité. Après son adoption, les choses ont commencé à être contrôlées. Un blogueur, c'est quelqu'un qui a une page et qui contribue au développement de son pays. Il doit donc se fixer un objectif, s'interdire de mentir pour éviter toute dérive. Les sanctions sont sévères, elles sont aussi multiples et multiformes. Il y a des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Des moyens existent pour traquer et juger les auteurs d'infractions sur Internet. D'une certaine manière, les médias sociaux contribuent au travail du journaliste car ils donnent souvent les alertes. Les défis sont énormes, mais l'éthique et la déontologie s'imposent donc à tous les blogueurs. Nous étions avec M. Lawali Soule Haruna, juge d'instruction au 2e cabinet d'instruction. M. Ibrahim Mamman Tani Mundari, il est juriste. M. Ibrahim Malam Tchillo, point focal de la Maison de la Presse. Et enfin, Mustapha Elhaj Adam, blogueur. Merci et au revoir.